OK, Adolf Eichmann, je ne sais pas si vous le connaissez, ce personnage, ce triste personnage, mais il y a 60 ans de ça, s'ouvrait son procès en Israël. Et Christian Page s'est intéressé à cette page d'histoire. Bonjour, Christian.
Salut, Bernard.
Bon, parle-nous de qui était cet homme, Adolf Eichmann. C'est très important dans l'histoire.
Et malheureusement, on a tendance à oublier ces grands crimes. C'est vrai qu'on a toutes sortes d'autres préoccupations, mais on a tendance un peu à oublier les crimes qui ont été commis durant la Deuxième Guerre mondiale. Et pourquoi je connais bien Adolf Eichmann? Bien sûr, parce qu'il fait partie de ces personnages qu'on évoque de temps à autre dans les théories du complot. Tu sais qu'il y a tout un mouvement de négationnistes qui disent, voilà, il n'y a pas eu, durant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu d'extermination des Juifs. Les camps de concentration sont une invention. Alors évidemment, je m'inscris en faux contre tout ça, mais le nom d'Eichmann est souvent évoqué dans ces théories du complot. Mm-hmm. Alors comme tu le mentionnes, qui est ce personnage? Je voudrais pas faire un mauvais jeu de mots, mais ça nous amène bien sûr dans toute une poignée d'individus qui étaient des bons à rien. Et Eichmann était l'un d'entre eux. On le décrit comme l'architecte de la solution finale. En fait, il faut comprendre un peu dans l'histoire. En 1941, Hitler décide de passer à la solution finale, se débarrasser du problème juif. Il va charger deux de ses proches, Heinrich Himmler et Hermann Göring, de procéder à ce plan-là. Et Göring va un peu diluer la chose en donnant le dossier à son bras droit, Reinhard Heydrich, qu'on avait surnommé le boucher de Prague, et qui lui a un bras droit qui est Adolf Eichmann. Donc tous ces gens-là vont se réunir, hein, on est au début de 1941-42, et là ils vont décider finalement de comment on va faire, et Eichmann est celui qui va établir le plan. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on a déjà éliminé à peu près 1 million de Juifs, mais on les éliminait soit par balle, hein, on les mettait en ligne sur le bord de fosses communes. Écoute, c'est des choses épouvantable. Mm-hmm. J'en parle, Bernard, et j'en parle avec émotion parce que j'ai visité Auschwitz et c'est un souvenir qui, pour moi, reste gravé dans ma mémoire. Hein. Mm-hmm. Donc, on plaçait ces gens-là le long de fosses communes et on les fusillait ou on les asphyxiait dans des camions, hein, où on avait le tuyau d'échappement directement branché sur la cabine où on exécutait ces gens-là. Mais ça se faisait pas assez vite. Donc, on voulait une solution qui permettrait d'éliminer non pas des dizaines ou des centaines de Juifs d'un coup, mais des milliers. Et Eichmann va établir, en fait, il est l'un des architectes qui va établir les grands camps de concentration, Auschwitz, Dachau, Buchenwald, où ces gens-là sont envoyés par des... Là, il avait tout pensé, hein. On va construire des voies ferrées, les gens seront amenés dans des wagons à bestiaux vers ces endroits-là. On va les acheminer ensuite vers des douches qui étaient reliées à des systèmes de tuyauterie où on laissait tomber du zyklon B, un pesticide qui entraînait, bien sûr, l'évaporation de gaz au contact de l'air et qui tuait des milliers de gens en quelques heures. Un truc épouvantable.
Alors, Eichmann, donc, va trouver refuge après la Deuxième Guerre mondiale, va trouver refuge en Argentine. C'est là que les espions du Mossad vont le retrouver, vont le kidnapper et le ramener en Israël pour qu'il puisse subir son procès pour tous ces crimes dont tu viens de parler.
Oui, c'est un truc qui est digne d'un roman de science-fiction, pas de science-fiction, mais d'espionnage. Hein. Eichmann va se cacher, va se terrer en Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Il va même être arrêté par les Américains. Il se donne un autre nom. Hein. Et là, il dit qu'il s'appelle Otto quelque chose. Et là, on l'envoie dans un camp de détenus de prisonniers parce qu'il a un tatouage SS sur le bras. Mais il réussit à s'enfuir. Et là, avec l'Opus Dei, une filiale qu'on appelle la filière Odessa, il va réussir à gagner l'Argentine où il va se terrer sous le nom de Ricardo Clemente. Mais une enquête menée par le Shin Bet, le Mossad, hein, les services secrets israéliens, vont établir définitivement que ce Ricardo Clemente est Adolf Eichmann, qu'il vit rue Garibaldi à Buenos Aires, qu'il a côtoyé d'autres nazis en fuite, dont Joseph Mengele. Et voilà qu'en mai 1960, on va organiser une opération digne d'un roman d'espionnage. On va enlever Eichmann, on va le droguer, on va le faire passer pour un pilote ivre d'une compagnie aérienne israélienne. On le fait monter à bord d'un avion et on réussit à le ramener en Israël où là, il va subir son procès sous 5 groupes d'accusations. Crime contre le peuple juif, crime contre l'humanité, crime de guerre et participation à une organisation hostile. Eichmann reste impassible. Il est dans une espèce de cage de verre. Il reste impassible. Pour beaucoup de gens, le procès est filmé. Et pour beaucoup de gens, c'est la première occasion qu'ils ont de voir ces films épouvantables de la Deuxième Guerre mondiale, où on voit des véhicules qui boulent littéralement des cadavres dans des fosses communes. Mmh. Les premières images tournées par des équipes de journalistes de l'armée américaine qui sont entrées à Auschwitz, ou encore des images qui proviennent des services de renseignement soviétiques, où on voit les crimes épouvantables. Eichmann reste impassible. Il se contente de répondre aux Juifs exactement comme l'ont fait avant lui les autres accusés au procès de Nuremberg en 45. Il continue de dire « Je n'ai fait qu'exécuter des ordres. Je n'étais qu'un exécutant. Je n'ai rien à voir là-dedans. J'ai défendu mon pays. » Et écoute, il est finalement condamné à mort. Il est pendu en 1962. Et écoute, on va publier ses mémoires en 2000, hein, durant son incarcération, il écrit ses mémoires, et en 2000, on va publier ses mémoires, et à un moment donné, lorsqu'il parle de son procès, je tiens à te citer ceci, il dit « Je descendrai dans la tombe, le sourire aux lèvres, à la pensée que j'ai tué 5 millions de Juifs. Cela me procure une grande satisfaction et beaucoup de plaisir. »
Ben voyons donc, il a écrit ça.
Il a écrit ça. Donc, tu vois, le témoignage d'Eichmann vient, par lui-même, de sa propre plume, contredire les gens qui disent « Ah, oh, il n'y a jamais eu de camp d'extermination. Tout ça est un complot monté par les Juifs. » De la main même d'Adolf Eichmann, il reconnaît avoir été l'architecte de la solution finale et que de sa main, il a entraîné la mort de 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. C'est un personnage épouvantable et je crois pas qu'aujourd'hui, si on souligne son procès, le 60e anniversaire de son procès, je pense qu'il n'y aura pas grand personne pour le pleurer.
Et il faut rappeler, en terminant, ce procès-là, il est important aussi parce qu'il a permis à des victimes de l'Holocauste, des victimes qui avaient survécu, de témoigner. Et il y a beaucoup de jeunes Israéliens qui ont pour la première fois compris l'étendue de l'Holocauste quand ils ont entendu ces hommes et ces femmes témoigner au procès de Eichmann et venir raconter ce qu'ils avaient vécu. Ça a été comme une espèce de révélation, pas juste en fait pour des jeunes Israéliens, pour beaucoup de gens à travers le monde. Ce procès de Eichmann, ça a été comme une éducation de ce qui s'était vraiment passé, de l'Holocauste, l'Holocauste s'était déroulé.
La Shoah. T'as tout à fait raison, Bernard, parce que au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1945, il y a le procès de Nuremberg. Malheureusement, les gens dont on attendait le plus le procès, à savoir Göring et Himmler, ils vont se suicider en croquant une capsule de cyanure, donc ils ne seront pas amenés à procès. Mais au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les gens qui témoignent, ils les ont vécu, les camps de concentration, ils étaient là, donc ils parlent de témoignages et des expériences empiriques, j'étais là. Et là, soudain, on dirait qu'en 1960, il y a une espèce de liberté d'expression, une liberté de la pensée, et on a l'impression que tout ça est éloigné, et tu as tout à fait raison, on a une espèce de nouvelle génération de jeunes qui ont grandi, qui étaient trop jeunes pour se rappeler vraiment les événements de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, soudain, en 1960, hein, alors qu'on est dans une espèce d'époque révolutionnaire, à la même date d'ailleurs, au moment où le procès d'Eichmann s'ouvre, les Soviétiques envoient Yuri Gagarin dans l'espace, hein, c'est pratiquement le même jour. Donc, on est dans une ère nouvelle.
Et la télédiffusion du procès a été très importante.
Voilà, la télédiffusion du procès. Oui. Les gens peuvent suivre en direct ces événements-là. Et comme je l'ai mentionné, pour la première fois, une nouvelle génération voit les terribles images tournées par les services militaires, soit américains ou soviétiques, au moment où ils ont entré ou ils sont entrés dans les camps de concentration. Et ces images-là nous sont restées encore aujourd'hui. Oui. Dès qu'on parle de la Deuxième Guerre mondiale, quiconque a vu ces images, ça reste gravé au fer rouge. C'est quelque chose d'épouvantable. Et j'espère que jamais on ne revivra un événement comme celui-là, si malheureusement des génocides comme ceux du Rwanda n'ont malheureusement rien envié au génocide juif de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais c'est vrai que ça se passait en Europe et il y a eu une couverture très différente des événements.
Christian Page, enquêteur du paranormal. Aujourd'hui, on n'était pas dans le paranormal, on était dans la très, très triste et tragique réalité.
Oui.
Voilà. Merci beaucoup, Christian.
Ça me fait plaisir, Bernard.
Merci, à la prochaine. Alors, j'allais dire avec Christian, pour ne pas oublier.